Studio Tamani, voici les informations en français.
Heureuse de vous retrouver à ce 18h de Studio Tamani, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Recrudescence des violences faites aux femmes, des associations haussent le ton. Elles demandent l'adoption des textes afin de protéger les femmes. Le Mali et la Chine donnent un second souffle à leur coopération économique. La deuxième édition du Forum Mali-Chine s'est tenue ce vendredi à Bamako. Objectif, promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Au Mali, la plupart des zones rurales ne disposent pas d'écoles secondaires et les élèves de ces localités peinent à trouver des logeurs dans les grandes villes. Plus de détails dans ce journal présenté par Juliette Koulibaly, Philippe Dambélé assure la technique. Au Mali, les violences faites aux femmes se multiplient ces derniers jours. On a assisté récemment à des cas d'amputation et d'autres actes violents envers des femmes. Pour faire face à la situation, des associations réclament l'adoption de textes pour la protection des femmes. Plus de détails avec Adama Amadou Aïdara.
Depuis plus d'un mois, des informations et vidéos relatives à des violences faites aux femmes sont virales sur les réseaux sociaux. Le dernier cas qui a fait plus d'écho date de la semaine dernière. Une femme âgée de la trentaine a été amputée des deux bras par son mari à la suite d'une dispute. Les faits s'y sont déroulés à Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako. Ce cas a précédé un autre où le mari avait arraché l'œil de son épouse. Si le premier bourreau a pris la fuite, le second, lui, est entre les mains de la justice. Selon le Programme national pour l'abandon des violences basé sur le genre, les cas rapportés pris en charge en 2022 s'élèvent à plus de 14 260. Dans une récente sortie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé que le cadre juridique par rapport aux violences basées sur le genre est en cours de renforcement. Selon lui, des textes ont été élaborés et sont dans le circuit d'approbation.
Pour mettre fin à ces actes ignobles, il faut punir sévèrement les auteurs. C'est l'avis de la présidente nationale de l'Association pour le développement des droits de la femme, APDF. Madame Diawara Fatoumata Koulibaly estime que l'État doit garantir le droit des victimes. Elle réagit au micro de Fatoumata Bagayoko.
Moi, je pense que la cause principale, c'est la pauvreté. Il y a les stupéfiants aussi actuellement que les hommes prennent. La façon même de consommer les mariages là, c'est des facteurs favorisant des violences. Parce qu'il y a des années où on n'a jamais entendu des choses comme ça. Malgré l'existence des différentes lois, les tueries vont de jour en jour grandissant. Je crois qu'on doit vraiment interpeller les autorités par rapport à ça. Il y a la loi, mais l'application aussi n'est pas effective. Il faut qu'il y ait des sanctions rigoureuses pour qu'on puisse cesser. On tue sa femme, on donne quelques années, souvent on voit la personne dans la rue. Vous croyez que ça va permettre de cesser? Les autorités doivent prendre des sanctions rigoureuses pour amener les gens à réfléchir avant d'agir.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Pour lutter contre la traite des personnes, le Comité national de coordination de la traite des personnes et des pratiques assimilées a présenté ce jeudi le rapport annuel 2022 sur les actions menées au cours de l'année. Elle a aussi procédé à la remise du troisième plan d'action national 2023-2027 au ministre de la Justice pour lutter contre la traite des personnes. Le budget total sur les 5 ans à venir est estimé à plus de 2 milliards. Reportage signé Lale Tangara.
Madame Samake Oumou El-Kairou Niaré, présidente du Comité national de coordination de la traite des personnes et des pratiques assimilées, explique le contenu du document.
Ce rapport comprend toutes les activités qui ont été menées par le comité pendant l'année 2022, notamment dans le domaine de la prévention, de la protection des victimes de traite des personnes. S'agissant du plan d'action national qui a été aussi lancé par le ministre de la Justice, ce plan d'action national sera sur 5 ans.
Mahamoudou Kassougué, ministre de la Justice présent à la cérémonie, a rassuré la mise en œuvre du plan d'action par son département.
Je puis vous donner l'assurance que mon département sera particulièrement attentif aux actions entrant dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, tous les axes d'intervention devant être cernés dans une démarche globale prenant en compte la prévention à travers la sensibilisation et la communication.
La présidente du comité de coordination de la traite des personnes espère qu'avec ce rapport, les trafiquants seront punis et que les victimes seront protégées.
Les forces armées maliennes renforcent ses positions à Tessalit dans le cadre de la rétrocession des emprises de la MINUSMA depuis plus de 3 jours. Dans une note, elle indique avoir entrepris des actions de riposte ayant visé les 17 et 18 octobre des véhicules des terroristes à Kidal et Tessalit. Au même moment, la MINUSMA annonce que le processus d'incinération des munitions périmées, entamé depuis le 8 septembre dernier, se poursuit près de Kidal. Autre actualité de cette édition, la deuxième édition du Forum Mali-Chine s'est tenue ce 20 octobre à Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'ambassadeur de la Chine au Mali et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le thème choisi cette année est « Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali ». Objectif, promouvoir des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Sanoussi Bouya-Sila, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, est au micro de Sita Sidibé.
Le Forum Mali-Chine, c'est une initiative de l'APEX et de l'ambassade de Chine pour mettre en relation, dans un dialogue très franc, les opérateurs chinois et les opérateurs maliens. Surtout lorsqu'on a entendu l'excellent discours du ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a vraiment planté le décor que dorénavant pour le Mali, quand on parle de coopération, on parle de régler des problèmes structurels. Et je me suis personnellement senti vraiment heureux lorsqu'il a parlé des problèmes agricoles, de les gérer de manière structurelle, à la place de les gérer de manière conjoncturelle. Que les industriels chinois, qu'ils avaient dit dans beaucoup de secteurs, viennent pour qu'on investisse dans l'agriculture, pour qu'on puisse booster la quantité déjà que nous exportons vers la Chine, mais aussi produire pour exporter pour le reste de l'Afrique, qui est notre vocation première. Donc je pense que les choses sont bien parties.
Comme annoncé dans les titres, chaque année, plusieurs élèves des zones rurales qui doivent continuer dans des écoles secondaires situées en agglomération peinent à être stables par manque de logeurs. Une situation qui oblige bon nombre d'entre eux à trouver un moyen de se prendre en charge. Reportage de Mamadou Samasekou avec l'appui de certains correspondants locaux.
À Tominia et à Yelimane, beaucoup de lycéens affirment être confrontés à des difficultés à cause d'un manque de logeurs.
L'année dernière, c'était tellement difficile pour nous. On n'a pas eu de logeurs à Yelimane.
À Tominia ici, c'est moi-même qui me prends en charge. Vraiment, c'est dur.
C'est nous-mêmes qui préparons pour nous. Je me débrouille pour payer ma location.
Abidjas Tera est le président coordinateur du comité de gestion scolaire de Tominia. Il regrette que ces difficultés de logement freinent les études de certains apprenants.
Il suffit seulement que tu sois un peu parenté à ces élèves. Les parents se déchargent carrément sur toi. Aujourd'hui, beaucoup de logeurs ne peuvent pas accepter ça et ça devient un problème.
D'autres responsables scolaires abondent dans le même sens et ils affirment que l'État a fait de son mieux. Cependant, Mme Sankare Bintou Arama, conseillère pédagogique au Cap de Tominia, estime qu'il reste beaucoup à faire.
Pour étudier, il faut être dans les conditions. Ça joue sur la performance des élèves. On a créé des lycées au sein de chaque cercle. La responsabilité des parents qu'il faut miser.
En attendant des solutions à ces problèmes, combien d'élèves pourront poursuivre leurs études dans ces conditions, s'interroge des observateurs.
Les populations à Bamako et à l'intérieur du pays vivent au rythme des coupures d'électricité. De la capitale à Sikasso, en passant par Tominia et Kenyeba, elles dénoncent ces délestages intempestifs qui impactent les activités économiques. Leur réaction dans la rubrique « On en parle » réalisée par Sali Sissoko avec l'appui de nos correspondants locaux.
Chez nous ici à Erosso, on ne se comprend pas avec les clients qui viennent ici pour les photocopies, les impressions.
La chaleur a failli nous tuer. Il n'y a pas de glace. Le ventilateur et les climatiseurs ne marchent pas. Et c'est pur dans les hôpitaux.
À cause des délestages récurrents à Kenyeba, les vols ne font qu'augmenter.
À Kenyeba, le délestage nous fatigue beaucoup.
Tu remplis ton réfrigérateur avec des jus d'orange ainsi que du lait et gingembre. À cause du délestage, tout devient aigre après. Tu es obligé de les jeter.
Souvent, la coupure d'électricité peut endommager nos appareils branchés.
On doit oublier cette histoire de courant et retourner à nos anciennes méthodes d'électrification.
Tant qu'il est possible d'avoir des pétroles, cherchons des lampes pour faire nos activités.
À présent, le tour de l'actualité de la semaine avec Khalifa Goïta.
Entamons cette page par le retrait anticipé des emprises de la région de Kidal par l'aménagement. L'opération concerne les bases de Tessalit et d'Aguelok. Le gouvernement du Mali s'est dit surpris par la mesure et a dénoncé une action unilatérale. Autre actualité marquante, c'est la délivrance d'un numéro d'identification nationale NINA temporaire aux postulants au concours de recrutement dans l'armée. L'annonce a été faite par le gouvernement, mais l'obtention de ces données de l'état civil relève d'un parcours du combattant, surtout à ceux qui vivent dans les zones d'insécurité. Après la décision de Gao et Tombouctou, le gouverneur de la région de Menaka a aussi instauré le mercredi dernier un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. L'objectif reste la sécurité des accès routiers des personnes et leurs biens. Par ailleurs, des médias maliens annoncent un forfait des Aigles d'âme qui devait affronter la Zambie dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Vrai ou faux, à ce stade, la Fédération malienne de football n'a pas communiqué.
Nous recevons à présent Mariam Koulibaly pour nous introduire le Grand Dialogue. Bonsoir Mariam, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Alors Juliette, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est « Les Corédoua ou les bouffons, une société secrète ». Nos invités sont Burama Mariko, Corédouga, Amadou Sanogo, professeur de danse au conservatoire Balafaseke Kouyaté, Diaye Isako, journaliste culturel.
Bon débat et fin de cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Fili Dambélé était à la mise en onde. Le secteur industriel est un apport important dans l'économie malienne. C'est le sujet du magazine Économie de ce soir. Ce secteur qui représente 20% au produit national brut, PIB, sa contribution à l'industrie manufacturière est de 5% selon les industriels maliens. Ce secteur est essentiel pour développer l'économie et créer des emplois. C'est une réalisation de Moussa Malé Sissoko.
L'organisation patronale des industriels du Mali au pays regroupe plus de 200 entreprises industrielles au Mali. Pour l'organisation, l'industrie malienne repose majoritairement sur l'agroalimentaire. Selon elle, le pays a des avantages comparatifs certains dans ce domaine. Diaraba Doumbia, secrétaire permanent de l'OPI.
Le Mali étant un pays agro-silvopastoral, notre industrie elle est beaucoup plus sur l'agroalimentaire. Mais il y a des usines de ciment, des usines de peinture et puis des fer à béton aussi. Donc le Mali a intérêt à transformer ses matières premières agricoles comme le coton, la filière bétail-viande, le maïs, la pomme de terre. La part de manufacture là, elle est de 6%. Donc c'est très peu quoi. Il y a des gros efforts à faire à ce niveau-là.
Mais quelles sont les difficultés auxquelles le secteur de l'industrie est confronté au Mali? Diaraba Doumbia répond.
Pas d'industrie sans énergie, l'électricité. Non seulement on n'a pas le courant, et puis la qualité aussi, elle est vraiment mauvaise quoi. Donc autre difficulté, c'est un peu le marché. Les frontières sont poreuses. Il y a beaucoup de produits similaires qui concurrencent l'industrie nationale. Autre difficulté, c'est la main-d'œuvre. Les sortants de nos écoles aujourd'hui, pratiquement, c'est des juristes, c'est des géographes, c'est des historiens, mais ça ne correspond pas au métier de l'industrie. Il y a aussi le problème de financement.
Le directeur national de l'industrie reconnaît ces difficultés qui, selon lui, font chuter les coûts de production des entreprises. Baba Diaby met l'accent surtout sur la transformation locale pour créer des valeurs ajoutées.
C'est un secteur sans lequel le Mali ne va jamais se développer. Mais ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de Maliens se tournent vers le commerce, alors qu'il n'a jamais développé un pays. Tous les Maliens doivent avoir la vision sur le développement de l'industrie. Sur notre production de coton, on transforme à peine les 2%. Les indicateurs de l'industrie ont chuté par rapport au secondaire, puis ça tourne autour de 20%. La manufacture, nous sommes presque les derniers dans la sous-région, ça tourne autour de 5%. C'est la manufacture qu'on peut vraiment considérer comme l'industrie.
Le Mali est en train de mettre en œuvre sa politique de développement industriel. Selon Baba Diaby, cette démarche concerne plusieurs filières au Mali.
C'est des filières qui sont développées dans cette politique. Ces filières, il y en a 5, mais dans la nouvelle révision, ce sera jusqu'à 8 filières. Entre les 5 filières en place, c'est l'agro-industrie, c'est la transformation exclusivement de nos matières premières. Alors, avec ces nouvelles autorités, la politique, c'est vraiment la transformation qui est là. Pour toucher notamment les très très petites entreprises, les moindres et les grandes entreprises, il faut que la transformation puisse nourrir le Malien.
L'économiste Ibrahim Mariko, déplore la destruction du tissu industriel malien de 1990 à nos jours. Il recommande des stratégies pour accélérer les investissements dans le secteur.
Dans l'ensemble des secteurs stratégiques de notre pays, nous n'avons pas un tissu industriel assez solide. D'abord, le défi, c'est d'élaborer des politiques industrielles à l'image de la politique industrielle africaine ou de la CEDEAO. C'est d'abord résoudre le problème de l'électricité, qui est un facteur essentiel pour le développement de toute industrie. Parce que l'industrie, c'est l'économie réelle, permet un développement accéléré de toutes les couches.
Déjà, les lignes commencent à bouger. Les autorités de la transition sont en train de donner vie à certaines entreprises. Il s'agit de la relance de la compagnie malienne de textiles Comatex à Ségou et de l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP à Bamako. Le gouvernement a également annoncé la réouverture prochaine de l'ICOMA, l'huilerie cotonnière du Mali à Koulikoro.